Le monde en partage. Radio Centre-Ville. Thibaut Temmerman.
Tachi Delek. Ben bravo à tous ceux qui auront reconnu, malgré mon accent, la manière de saluer en tibétain. Bonjour à tous. Cette semaine, nous partons en Asie et donc plus précisément au Tibet. Alors, comme vous le savez sans doute, le Tibet, cette région du monde qui a été envahie par l'armée chinoise en 1950, provoquant l'exil de son gouvernement en Inde et notamment de sa figure emblématique, le Dalai Lama. À l'époque, les autorités chinoises justifiaient cette invasion par l'idée qu'il était nécessaire de sortir le peuple tibétain du Moyen-Âge dans lequel les autorités spirituelles tibétaines les avaient laissés enfermés. Je me base sur le récit du journaliste français Pierre-Antoine Donnet dans son livre « Le Tibet mort ou vif ». À sa lecture, vous pourrez constater que le gouvernement chinois ne manquait pas de formules fleuries pour pouvoir justifier cette intervention. Du reste, il est assez intéressant de se rappeler que en 822, un traité avait été conclu entre le monarque chinois et le monarque tibétain. Je le cite, ce traité, « Le grand monarque du Tibet et le grand monarque de Chine, neveu et oncle l'un de l'autre, se sont rencontrés. On conclut un accord en vue d'un système de gouvernement commun et signé une grande paix. Les deux pays, Tibet et Chine, doivent protéger leur territoire et les frontières qui leur appartiennent. Tout ce qui se trouve à l'est de cette frontière appartient à la Grande Chine. Tout ce qui se trouve à l'ouest appartient au Grand Tibet. Les deux parties ne doivent pas se combattre comme des ennemis, mener des armées belligérantes sur leur territoire mutuel ou envahir ces derniers. Malheureusement, les personnes d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement contraintes par les paroles et les promesses d'autrefois. » Sauf qu'en l'occurrence, comme vous le savez sans doute, cette invasion s'est suivie par une sinisation à marche forcée de la société tibétaine qui lutte de plus en plus pour la survie de sa langue, de sa culture, de sa religion notamment. Et régulièrement, il s'y déroule des drames dont il est malheureusement que trop ponctuellement question dans les médias. Il est question des moines bouddhistes qui s'immolent pour protester contre les autorités chinoises. Sauf que ce geste est tellement fort qu'on occulte bien trop souvent les raisons pour lesquelles ces malheureux en viennent à cette extrémité-là. Alors c'est ce que nous allons essayer de mieux comprendre grâce à notre invité du jour que j'ai le plaisir d'accueillir ici en ce studio. Eva Sirnou, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes coordinatrice de la section francophone du comité Canada-Tibet, mais également la réalisatrice donc de ce documentaire « Le Tibet intérieur » que l'on pourra retrouver dans toutes les bonnes salles, je pense, d'art et d'essai très prochainement ici au Québec. Tout d'abord, pour commencer, ce comité Canada-Tibet, de quoi s'agit-il ?
C'est un ONG, donc une organisation non gouvernementale fondée il y a 26 ans par des Tibétains et des Canadiens ici au Canada. Donc c'est l'organisation la plus ancienne au Canada qui représente la cause tibétaine. On a des branches un peu partout au Canada, c'est surtout des bénévoles et on est financé par des dons privés seulement, des donations du public. Donc ce qui nous permet d'avoir une agenda un peu plus intègre, je dirais, sans intérêt politique ou sans toute l'interférence que souvent les subventions imposent aux organisations.
D'où vous vient cette passion pour le Tibet?
c'est une question qu'on me pose souvent, puis honnêtement, il y a tellement de facettes à mon intérêt pour le Tibet que ça serait vraiment difficile de vous répondre. J'ai un background en design et art, donc ce qui m'a fasciné au départ, je pense, c'était l'art tibétain, la sculpture, l'architecture aussi, et une beauté sublime dans tout ce que j'ai vu d'art visuel hein, au Tibet. Il y a aussi le côté droits humains qui me touche de par mon vécu. J'ai grandi en Roumanie pendant le communisme, donc je m'identifie un peu, malgré que je veux pas limiter ou diminuer ce qui se passe au Tibet présentement, c'est pas du tout ce que moi j'ai vécu, mais je peux quand même m'imaginer c'est quoi l'oppression d'un régime communiste très oppressif. Il y a aussi un côté spirituel que je retrouve vraiment souvent dans les autres bénévoles de l'organisation, de mes amis aussi, des gens qui font du yoga, de la méditation, qui trouvent que dans cette culture, il y a un esprit paisible qui peut aider tout le monde, qu'on soit bouddhiste ou pas, dans notre vie de tous les jours. Donc c'est vraiment très vaste, mon intérêt.
Et donc nous allons évoquer bien sûr cette question de l'état d'esprit tibétain et de la culture tibétaine. Mais donc si je vous posais la question, c'était pour savoir, cette passion pour le Tibet a fini par aboutir à la conception de ce projet de documentaire. Et là, comment cela s'est passé? Qu'est-ce qui vous a fait vous décider à réaliser un documentaire sur cette région du monde et cette culture en particulier?
Il y a deux facteurs qui m'ont poussé à faire ce film, malgré le fait que je n'ai jamais fait. C'était vraiment une première pour moi et pour les membres de l'équipe aussi.
Et pourtant, je le précise, les images sont vraiment très belles. Donc,
merci.
C'est vraiment du
merci.
Beau travail.
On a eu quand même beaucoup de gens qui étaient professionnels qui se sont joints à nous, mais au départ, on était des novices. Il y a d'un côté tous les témoignages des gens que j'ai rencontrés de par mon travail, vraiment des témoignages très, très touchants que j'aurais voulu partager avec des gens. Et de l'autre côté, l'urgence de ce qui se passe en ce moment au Tibet, le fait que leur culture est vraiment oppressée au point où le Dalai Lama a même osé parler d'un génocide culturel, du fait qu'il y a une façon très consciente d'extirper cette culture de son pays. Donc voilà, il y a les deux choses, l'urgence de la crise au Tibet et la beauté de cette culture qui nous ont poussé à vouloir faire quelque chose pour sensibiliser le public.
Et sur place, alors, vous avez pu rencontrer peut-être des personnes qui étaient liées au comité Canada-Tibet ou comment avez-vous choisi vos interlocuteurs?
Au départ, évidemment, on n'aurait jamais pu faire ce documentaire au Tibet. On n'aurait jamais pu avoir le visa. Donc, on s'est penché sur les Tibétains en exil et les gens qui soutiennent la cause en exil, notamment la présidente, la directrice du comité Canada-Tibet, d'autres organisations comme Students for a Free Tibet, donc étudiants pour un Tibet libre, qui existent partout au monde. Il y a aussi à Montréal une galerie d'art tibétain qui a fermé récemment après 25 ans d'affaires. Donc, plusieurs personnes qui ne sont pas tibétaines, mais qui soutiennent cette cause, qui la font connaître en dehors du Tibet. Et donc c'est ça, c'était le volet canadien. On a tourné ici pendant presque un an. Et après, on est allé en Inde, à Dharamsala, où le gouvernement tibétain en exil a siège.
Donc
où le
Dalai
Lama, oui, vit aussi depuis son exil. Et c'est là qu'on a rencontré la plupart des Tibétains. C'était autant des officiels, des gens du domaine religieux, de l'État. On a eu le premier ministre, affaires étrangères aussi, plusieurs personnes du ministère de la Culture, vraiment des activistes, des moines, des gens de la vie de tous les jours qui avaient des avis aussi pertinents. Mais on voulait vraiment donner un spectre très large. On voulait donner une idée un peu de ce que les Tibétains, dans toute leur diversité, peuvent avoir.
Effectivement, ce que vous précisiez, c'est que il est possible d'entrer au Tibet pour faire du tourisme, sous des conditions extrêmement strictes d'ailleurs, mais il n'est pas possible d'arriver là-bas pour faire un tournage. Ce que je voulais savoir également, c'est quels sont les témoignages que vous ont apportés ces Tibétains sur place. Vous n'avez pas eu la possibilité de tourner donc au Tibet. Alors comment vous êtes parvenu à pouvoir effleurer cette réalité de l'oppression culturelle et de la sinisation du Tibet?
On a interviewé des gens qui n'ont pas voulu faire des entrevues à visage découvert, mais évidemment, on les a sur caméra, on le voit dans le documentaire, des gens qui venaient tout juste d'arriver, de s'échapper du Tibet, qui avaient fait le voyage, la traversée, qui prend 20 jours au moins à pied. Après ça, enfin, ils se sont fait transférer d'un centre de réfugiés à un autre, jusqu'à celui où on les rencontrait. Donc, c'est des témoignages très frais, très vif, très très émotif de ces gens-là qui n'ont jamais pu pouvoir s'exprimer avant. On les voyait souvent pleurer. Enfin, c'était très très émouvant. Mais on avait aussi des témoignages de gens qui étaient en Inde déjà en exil depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans. Des gens qui étaient nés en Inde, mais qui avaient la même flamme, la même urgence dans leurs propos. Et on comprend que c'est vraiment, c'est pas la haine contre les Chinois qui les anime, mais plutôt l'amour pour leur pays. Donc c'est pas quelque chose qui peut périr, je pense, aussi vite. On a fait, enfin, des dizaines d'entrevues, même, je dirais presque une centaine en tout. On en a gardé que quelques-unes pour le documentaire, mais les propos, je trouvais qu'il y avait une cohérence dans les propos. Tout le monde était d'accord que ce qui se passe au Tibet, qu'il entende parler par des amis, par des témoignages, enfin, de gens qui risquent leur vie des fois pour faire sortir des téléphones avec des images filmées dessus. Tout le monde était d'accord que ce qui se passe en ce moment est très tragique. Et peu importe qu'on donne ou pas l'accès aux médias au Tibet, on aura toujours ces témoignages-là. Il y a toujours des gens qui vont risquer leur vie pour faire savoir au monde qu'est-ce qui se passe.
Nous allons poursuivre cette discussion avec un premier extrait musical. Et puisqu'il est question du Tibet, je vous propose de faire la découverte de l'artiste chinoise Sa Dingding, qui chante aussi bien en chinois qu'en tibétain ou en sanskrit. C'est d'ailleurs dans cette langue qu'elle chante « Alive ».
Oh,
c'était Alive de Sadie Ling. Alive qui se retrouvait sur le premier album de cette chanteuse, sorti en 2007, et elle a sorti il y a quelques mois un nouvel album. J'aurai peut-être l'occasion de vous en proposer d'ailleurs quelques extraits prochainement, je l'espère. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde en Partage et je suis avec Eva Sirnou, la coordinatrice de la section francophone du comité Canada-Tibet et également réalisatrice du documentaire Le Tibet intérieur, pour parler de la survie de la culture tibétaine. Alors on commençait à évoquer cette idée justement de la survie de la culture tibétaine. J'avais lu donc dans un livre qui commence à dater peut-être un petit peu, celui du journaliste français Pierre-Antoine Donnet, Le Tibet mort ou vif, où il expliquait les dommages qu'avaient commis les autorités chinoises sur notamment les temples dont certains avaient été détruits ou transformés. Est-ce que cette situation perdure encore de nos jours, ou est-ce qu'il y a eu un ralentissement de cette destruction physique de la culture tibétaine?
Oui, vous le dites bien, c'était une destruction physique à l'époque. Après l'occupation chinoise, pendant la révolution culturelle, la soi-disant révolution culturelle de Mao, au Tibet autant qu'en Chine, il y a eu beaucoup de destruction, dont notamment 8000 monastères, enfin tout ce qu'il y avait dedans, les sculptures, les peintures et tous les objets de rituels. Ça, c'était à l'époque. Quelques années après, il y a eu un revival, si je peux dire, de cette facette, et une ouverture vers les monastères. Les gens ont pu retourner dans les monastères et pratiquer, soi-disant, leur culture, leur religion. Mais avec un côté très insidieux, je trouve, de la chose. C'est-à-dire, les temples sont devenus des attraits touristiques. Il y a de la surveillance partout dans les temples. Il y a des portraits des officiers et des chefs d'État chinois dans tous les monastères. Il y a un contrôle et même... il y a des forces armées partout dans les monastères, les plus grands monastères, surtout dernièrement lorsqu'il y a eu des immolations. Donc ça, c'était concernant la liberté religieuse, je dirais. Il y a aussi une autre destruction de la culture tibétaine qui est beaucoup plus tacite et beaucoup moins palpable que la destruction des temples, des choses physiques. C'est-à-dire, on n'a plus le droit au Tibet d'enseigner le tibétain. Et d'enseigner en tibétain, tout se fait en chinois. Donc vous imaginez ce que ça fait pour des générations au complet d'enfants qui sont scolarisés en chinois. L'accès aux emplois est beaucoup limité pour des gens qui ne parlent pas chinois. Pour chaque 7 personnes d'ethnie Han au Tibet, il y a un tibétain, donc ils sont en minorité dans leur propre pays. Il y a les chansons tibétaines et les costumes traditionnels qui sont interdits ou très sinisés. Enfin, il y a une destruction culturelle qui est beaucoup plus importante, je trouve, parce que justement, c'est quelque chose qui va perdurer et qui a des conséquences encore plus graves que la destruction des temples, oui, selon moi.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a une politique finalement de transfert de Chinois, d'ethnie Han vers le Tibet ou le Xinjiang, comme disent les Chinois. Je parlais de destruction physique sans bien sûr minimiser les exactions physiques, en l'occurrence, et les séances également d'autoflagellation publique. Depuis 2009, je dirais, on entend de plus en plus souvent des nouvelles d'immolation de bonzes, de moines tibétains. Pour quelles raisons il y a cette soudaine augmentation de ce genre de drame, selon vous?
Ça a commencé en 2009, pour une raison très claire. En 2008, lors des Jeux olympiques, il y a eu une grande révolte au Tibet qui a été étouffée, comme par le passé. Mais l'exaspération des Tibétains avait atteint une limite inouï par le passé. En 2009, déjà la militarisation de Lhasa, de tous les lieux sacrés, religieux, ont atteint un degré vraiment alarmant. Et depuis, vu qu'il n'y a plus de moyens de protestation conventionnels, donc les gens ne peuvent pas s'exprimer librement dans les rues, c'est un peu un acte c'est un sacrifice, selon certaines personnes. De l'autre côté, c'est un acte quand même de désespoir, c'est le dernier recours qu'ils ont pour se faire entendre. Et depuis 2009, depuis février 2009, jusqu'à cette semaine, jusqu'à samedi passé, il y a eu 122 immolations au Tibet, et 6 autres immolations par des Tibétains en exil, notamment au Népal et en Inde. Donc ça vous donne un peu une idée du paroxysme, du degré d'oppression au Tibet en ce moment, et aussi des moyens qui sont très très limités pour les Tibétains de se faire entendre. Et je dirais aussi, par rapport à ça, en 2009, les Nations Unies avaient fait le dernier examen des droits humains en Chine, et la semaine prochaine, le 22 octobre, il y aura le deuxième tel examen. Et depuis, entre les deux, il n'y a pas eu de visite de diplomates, de médias, de quoi que ce soit au Tibet qui avait été permise, sauf pendant les derniers mois où on a donné accès à 3 diplomates étrangers, États-Unis, Union européenne et Australie, au Tibet. Et on se doute que c'est en vue de cet examen que ça a été fait. Donc depuis 2009, ça n'a pas cessé d'empirer. Et justement, tantôt, on parlait de la destruction culturelle, physique et plutôt invisible. Et je vous dirais que pendant qu'on se parle maintenant à Lhasa, le quartier le plus ancien de Lhasa et le plus sacré aussi, le temple Juhang, est en train d'être détruit. Puis il y a un stationnement et un centre commercial qui va être bâti là-dedans. Donc ça, c'est un peu comme le vieux Montréal qui serait rasé pour faire la place à un parking et un centre commercial que les gens ne veulent pas. De toute façon, les Tibétains, pour eux, leur temple sacré, il est irremplaçable. Donc ça n'a pas cessé d'empirer depuis 2009.
On s'entend que c'est véritablement une grande perte culturelle qui dépasse, je pense, les frontières culturelles et géographiques du Tibet. Ce que je voulais vous demander également, puisqu'on parlait des enfants, dans le livre de Pierre-Antoine Donnet, il était question également d'une certaine divergence de la nouvelle génération tibétaine qui est partagée entre la tradition non-violente, pacifiste de leur culture, de leur religion et de poursuivre leur lutte pour la survie de leur culture et une autre partie de cette génération qui serait tentée de mener leur combat de manière moins pacifique, je dirais, sans aller jusqu'à prendre les armes, mais en tout cas de manière peut-être un peu plus conflictuelle. Est-ce que vous avez ressenti cette interrogation au sein de la nouvelle génération?
Oui, ça on l'a vu autant au Canada qu'en Inde, dans les communautés de réfugiés là-bas. Et c'est, encore une fois, comme vous le dites, c'est très très aligné avec la non-violence, la voie pacifique des Tibétains depuis 64 ans. Donc c'est plutôt de la désobéissance civile. C'est des actes qu'on peut se permettre en exil seulement, évidemment, et non pas au Tibet. Mais je regarde des exemples comme l'organisation Étudiants pour un Tibet libre, qui organise à chaque mercredi des événements, des happenings sur le thème du Tibet, qui sont très, très contestatrices dans leur esprit, mais jamais violentes. Donc, j'ai beaucoup de respect pour cette génération qui est née ici, qui parle tibétain, qui à chaque mercredi prend les armes non violentes, si je peux dire, sort dans les rues, fait des petites démonstrations pacifiques et surtout très, très symboliques. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ça, surtout quand on regarde le contexte actuel partout au monde. Et c'est pour ça que je trouve que ça vaut la peine d'encourager ce mouvement politique non violent, parce que ça pourrait donner beaucoup d'espoir et beaucoup de leçons à d'autres mouvements qui pourraient en profiter, sans perte de vie et sans perte d'énergie aussi.
Quelle est encore l'image que garde le Dalai Lama pour cette diaspora culturelle? Quelle importance il possède encore?
Le Dalai Lama, selon moi, va toujours rester leur leader spirituel. C'est avant tout ça. C'est pour eux, c'est la réincarnation de la divinité de la compassion. Donc, ça va au-delà même d'un chef spirituel, comme pour nous, pour les chrétiens, ça serait, mettons, le pape. Donc, c'est beaucoup au-delà de ça. Je pense que le fait que les Tibétains soient restés non violents et remplis de compassion envers les Chinois pour aussi longtemps, c'est une grande partie due au Dalai Lama, à son esprit d'entraide, de compassion, de compréhension aussi du point de vue des Chinois. Et d'ailleurs, il parle toujours des Chinois en termes de nos frères et sœurs chinois. Donc ça dit beaucoup et c'est une figure qui inspire le mouvement. Et je pense qu'il va toujours le faire tant qu'il sera en vie.
Nos frères et nos sœurs chinois, on en revient finalement à ce traité d'amitié signé en 822. Je vous remercie beaucoup, Eva Sianou, d'avoir accepté notre invitation et donc tous les renseignements pour pouvoir donc regarder votre documentaire seront d'ailleurs reposés sur notre site internet. C'est déjà la fin du Monde en Partage pour aujourd'hui. Merci encore à notre invitée de ce jour, Eva Sianou. Toutes les informations concernant cette émission seront bien sûr disponibles sur notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com et je vous rappelle enfin que cette émission est réécoutable en ligne ou en baladodiffusion. C'était Thibaut Temmerman à la réalisation. Vous retrouverez tout de suite le magazine Centre-Ville et je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine sur Radio Centre-Ville. On se quitte, puisqu'il était question du Tibet, avec la chanson Himalaya, mon amour, extraite de l'album du même nom, sorti par l'artiste québécois Alex Nevsky.
Trahir l'horizon, ne voir que toi, et faire d'un tison un feu de joie. À la lueur de la lune, j'ai vu ta peau, ta chair qui s'allume sous ma paume. Himalaya, mon amour. Trahir l'idéal, ne croire que toi. Rompre le signal, fou déjà. À la lumière des cieux, nos corps sont libres. Au sommet notre vœu, perdre l'équilibre. Faire d'un tison un feu de joie.